Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Je m'éclate dans mon boulot. C'est très compliqué parce que je suis toute seule. Donc, en fait, je fais le boulot de deux personnes. Mais c'est une telle passion. Et bien, au fur et à mesure des années, en fait, je l'ai développée. Je crois qu'il faut quand même énormément aimer donner. C'est une passion.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Aujourd'hui, nous partons dans le Luberon pour rencontrer Ève Aubert, propriétaire du domaine La Parpaille. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Ève et découvrir sa vie à 1000 à l'heure. Pleine d'énergie, avec une idée à la minute, Ève sait aussi ralentir et profiter de bonheur simple. C'est d'ailleurs ce qu'elle offre à ses invités, une pause, un séjour en parfaite harmonie avec la nature où l'on se reconnecte à soi. Alors prenons le temps, nous aussi, d'écouter ce nouvel épisode en se concentrant sur le moment présent. Bonne écoute à tous. Bonjour Ève.
Bonjour Laura.
Bienvenue dans les Clés du Gîte. Je suis super heureuse de t'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation de témoigner sur ton expérience en tant que propriétaire du domaine La Parpaille.
Merci à toi de m'avoir contactée.
Pour commencer, je propose que tu te présentes auprès de nos auditeurs.
Donc, je m'appelle Ève. J'ai 56 ans. La maison qui est aujourd'hui mon lieu de travail et ma maison est une maison que mes parents ont achetée quand j'avais 3 ans. C'était notre maison de vacances, donc on y venait les week-ends et puis en été. C'est aussi une maison que mes parents ont failli vendre au moins une 50aine de fois parce que en tant qu'ado, la campagne, c'était bof. En 2006, mon papa est décédé et en 2006, on avait avec mon mari le projet de développer un gîte. J'ai un peu taraudé ma mère pour qu'elle me donne la maison. Donc, elle m'a fait ce très très beau cadeau de me donner la maison. Et avec mon mari, on s'est lancé à fond dans ce projet, dans les travaux. Donc, avec l'idée au départ uniquement d'avoir un gîte parce que moi j'avais une belle situation. J'étais chef d'entreprise. L'idée c'était que mon mari gère la maison, fasse les travaux et que moi je travaille à l'extérieur dans ma société et que on ait après des revenus un peu complémentaires et puis après là, la suite c'était un petit peu pour penser à notre retraite. Les choses elles se sont pas passées exactement comme ça. J'ai perdu mon boulot pour être honnête. J'ai mes associés qui ont plus voulu de moi. Et comme j'étais mandataire sociale, et ben, je me suis retrouvée avec une main devant, une main derrière, comme on dit, sans parachute doré, parce que c'était pas une grosse société. Et donc, ben, on a dit, ben, bah, tant pis, tant mieux même. Je voulais plus aller dans le milieu industriel, c'était pas un truc qui me plaisait au final tant que ça. Et donc, on a dit, ben, bah, on va se lancer à fond dans ce projet, en ouvrant des chambres d'hôtes, en développant le projet. Et l'idée, c'était que, ben, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est communication, gestion, puisque c'était ce que je sais faire. Et mon mari, ben, plus le côté tout ce qui était technique. Et puis, ben, ça n'a pas fonctionné. Et donc, comme c'est une maison qui m'appartenait, on s'est séparés. Comme je dis souvent, le fait que mes associés m'aient viré, ils l'ont mal fait. Mais c'était un mal pour un bien, parce que, ben, c'est vraiment je m'éclate dans mon boulot. C'est très compliqué parce que je suis toute seule. Donc, ben, en fait, je fais le boulot de deux personnes. Mais c'est une telle passion. Et ben, au fur et à mesure des années, en fait, je l'ai développée. Et donc, j'ai fait au fur et à mesure. Ben, aujourd'hui, j'ai 5 chambres, un gîte, un loft. Je fais à manger. Là, en ce moment, je suis en train de développer des... Enfin, voilà, plein de choses. C'est vraiment une passion. Je le fais pas vraiment pour l'argent, parce que c'est beaucoup de frais. Mais c'est, voilà, c'est une vraie passion. Le gros avantage qu'il y avait, quand même, c'est que j'ai été commerciale, j'ai dirigé la boîte de mon père quand il est décédé, où il y avait 120 salariés, 25 millions de chiffres d'affaires, 60% à l'international, donc une grosse société qui n'était pas faite pour moi. J'ai créé une start-up avec mes associés qui m'ont viré, donc il y a eu tout le truc génial de monter une start-up, faire une levée de fonds, enfin, c'était vraiment génial. Et du coup, quand même, tout ça, ça m'a permis d'être hyper structurée, parce que faut pas l'oublier, une maison d'hôtes, ça paraît, il y a plein de gens qui vous disent, ouais, c'est super et tout. Oui, c'est super. Mais si on n'est pas un minimum structuré et qu'on gère pas ça comme une entreprise, ça marche pas. Il faut savoir faire de la communication, il faut faire de la gestion, il faut savoir cuisiner parce que c'est vraiment un plus, il faut aimer le contact avec les gens. Enfin, c'est multitâche, quoi. Comme c'est pas un truc qui ramène des milliards, parce que c'est ou alors je gère très mal, ben, on peut pas non plus avoir 50 salariés, quoi, voilà.
Depuis le moment où tu as eu l'idée jusqu'à la première réalisation, est-ce que tu t'es formée, est-ce que tu t'es fait accompagner, ou vraiment t'as été autodidacte et puis tu as pris des infos là où tu les trouvais?
Alors, la déco, la bouffe, tout ça, c'est des choses qui me passionnent. Donc, j'ai suivi des cours de pâtisserie vegan, parce que c'est un peu, j'aime bien cuisiner végétarien, vegan et tout, donc voilà. Et j'aimerais avoir un vrai nom là-dessus, puis avoir d'autres techniques, mais c'est quelque chose qui me plaît tellement que là, j'ai quasiment pris aucune formation. Alors, pour la déco, pas du tout. Pour la gestion, monter un business plan, faire un projet, faire des roadmaps, plein de trucs, quoi. Pour gérer une entreprise, j'en avais pas besoin, parce que j'ai géré une boîte de 120 personnes, j'ai créé une start-up avec des levées de fonds, plein de subventions à droite, à gauche, j'ai signé des contrats avec des grosses sociétés comme Total et Sceaux. Donc, au final, non, tout ça, je savais déjà le faire. Et même, alors par contre, des fois, j'avais un décalage, parce que à l'époque, je gérais d'autres budgets. C'est vrai que là, quand je mets 100 euros dans une pub, waouh, c'est cher. 100 euros avant, c'était comme ça. Et puis, c'était pas mon argent. C'est aussi là la différence, parce que quelque part, même si je suis en société, hein, je suis en SA, ça reste quand même le même argent. C'est-à-dire que je peux pas dire, bah, c'est ma société, tant pis si elle coule, parce que c'est la trésorerie de ma société, bon, elle est un peu avec ma trésorerie à moi, quoi, en fait. Par contre, là où je me suis formée, parce que je le déléguais, en fait, c'était tout ce qui est réseaux sociaux. Et ça, je le sous-traite quand même. Voilà, je fais pas tout toute seule.
D'accord, très bien. Et juste pour revenir à ton statut du coup de société, est-ce qu'on peut savoir les motivations qui t'ont installé en SASU ou...
Ouais, alors en SASU, c'est parce que j'étais très prétentieuse et j'avais fait un super business plan, parce qu'en fait, quand je me suis retrouvée toute seule, l'idée c'était d'augmenter mon nombre de chambres, mais c'était aussi de faire un resto au bord de ma piscine. Et c'était de faire plein de beaux séjours avec du bien-être, des cours de cuisine, tout ça. Et donc, j'avais fait un business plan où je me gavais et où les résultats étaient formidables. Et donc, j'allais me payer avec des dividendes qui étaient moins taxables que des gros salaires et des choses comme ça. Et donc, ben, je suis partie sur la SASU et puis, ben, j'ai pas du tout réalisé le business plan que j'avais prévu de faire. Ouais. Donc, l'intérêt de la SASU, là, il est peut-être moindre. Ouais. Parce que je suis assujettie à la TVA, par exemple. Et là, cette année, je pense que je vais vraiment le lancer. Je veux faire des séjours avec de la méditation, des cours de yoga, des balades. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas assujettis à la TVA. Et ça me pose problème. Voilà, parce que ben toutes leurs prestations, je suis obligée de les augmenter de 20% sans prendre un centime dessus.
Est-ce que tu as un comptable avec toi ?
J'ai un comptable, oui. Ouais. Donc, il s'occupe de tout. Je lui envoie mes papiers, il fait ma déclaration de TVA, il fait mes salaires. Parce qu'en été, je prends des CDD. Hein, la grosse période de juin à fin septembre, j'ai des CDD. Donc, lui, c'est lui aussi qui s'occupe de toute la partie sociale, la déclaration à l'URSSAF, tout ça. Voilà, tout ça, je gère absolument pas.
Ouais, oui, oui. Et au niveau de tes prestations, alors je vois que il y a beaucoup de choses que tu proposes, c'est super. Est-ce qu'elles sont venues un peu au fur et à mesure avec l'expérience? Est-ce que tu as tout mis déjà dès l'ouverture en place? Comment ça s'est un petit peu organisé?
Non, ça s'est fait au fur et à mesure et chaque année je change un peu ce que je propose parce que entre mes rêves et la réalité. Voilà, des fois il y a un gap. Donc comme je t'ai dit au début, je voyais vraiment d'ailleurs le truc c'est pour ça que j'avais appelé ça le domaine parce qu'au départ en fait, je l'ai pas raconté dans l'histoire de la maison, mais mes parents sont enfin puisqu'il y a plus que ma maman est très protestante, très pratiquante et dans le sud de la France, les protestants s'appellent les parpaillots. Et mes parents avaient, c'est pour ça qu'ils avaient appelé la maison la parpaille, la maison où les parpaillots se retrouvaient parce qu'il y avait plein de fêtes de l'église qui se faisaient ici. Donc j'ai gardé le nom et au début, avec mon ex-mari, on avait appelé ça juste la parpaille. Et puis après, mon idée, c'était vraiment de faire un lieu de vie. Et du coup, j'avais appelé ça le domaine la parpaille pour qu'il y ait plein de choses. Et plein de choses, c'était, j'avais envie d'accueillir des artistes, j'avais envie de faire un resto, j'avais envie de monter un institut de beauté, j'avais envie de faire des séjours, tout ça, voilà, ça faisait un lieu de vie. Alors après, il y avait des idées qui étaient contradictoires parce qu'un restaurant, par exemple, c'est complètement antinomique avec la maison d'hôte. Enfin, en tous les cas, dans la configuration de ma maison, parce qu'en fait, ça veut dire qu'éventuellement, il va y avoir 20-30 personnes à midi au bord de ma piscine, alors que les personnes qui viennent chez moi, elles recherchent le calme et la tranquillité. Et donc, voilà, il y a des trucs qui m'ont dit, ça va pas être possible. J'adore cuisiner, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais à manger. Avant, je faisais à manger tous les soirs. Et puis, ben, comme je suis toute seule, ça me crève. Et je prends plus de plaisir à cuisiner. Donc, du coup, je fais une seule table d'hôte le samedi soir. J'aime bien, donc après, il y a des soirs où je fais des trucs un peu plus simples. Et puis après, même des fois, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est pour ça que cette année, j'ai inventé, donc ça se voit pas sur mon site, mais j'ai fait des petites cagettes où les gens, ils ont du pain, du fromage, une salade de fruits, comme ça, pour rester dans le domaine le plus longtemps possible. Alors, après, on se cache pas la face, hein, c'est aussi pour augmenter le panier moyen. Mais l'idée, c'est que les gens, ils profitent à fond du lieu. Et c'est pour ça aussi que je propose, en été, je propose mes dimanches et mes lundis piscines. Donc, en fait, j'ouvre ma piscine en la limitant à 10 personnes au bord de ma piscine. Donc, pas que ça devienne la piscine municipale. Mais je propose, en fait, d'ouvrir ma piscine à des gens extérieurs avec un repas que je prépare. Et en hiver, je fais des brunchs. Parce que je crois que ma passion, c'est de cuisiner. Voilà. Et puis, je propose aussi ça, c'est pas moi qui le fais. Il y a une personne qui vient faire des massages. Et le dernier truc que j'aimerais vraiment faire, c'est, et que ça fonctionne, parce que je le lance, mais ça fonctionne pas bien. Donc là, j'ai vraiment un point d'interrogation sur comment communiquer. Je sais pas comment communiquer. C'est faire ces fameux séjours, où les gens, ils aient un programme tout établi, ils soient complètement pris en charge pendant un gros week-end, où on fasse un peu de méditation. Alors tout ça, vraiment, moi, mon maître mot, c'est, bon, je sais que c'est la mode, mais c'est vraiment ma façon de, à laquelle j'ai envie d'aller, c'est vraiment ce qu'on appelle la slow life, hein, c'est prendre le temps. Ce qui me motive aussi, c'est que tous les gens qui viennent chez moi, ils disent vraiment, il y a les tensions qui tombent quand on rentre dans votre maison. mais je ne sais pas trop comment communiquer. Voilà, j'avoue que je suis un peu, parce que je le lance et bah, ça ne marche pas.
Mais l'idée, ce serait que tu fasses venir une prof de yoga ou des partenaires comme ça sur place?
Tout à fait, sur place. Alors, je l'ai déjà fait parce que j'en ai un dans mon programme, ça s'appelle le Slow Body. Quand j'ai lancé sur des dates bien précises, j'ai jamais eu de gens. Par contre, j'ai été contactée, parce que c'est sur mon site, par des dames, parce que c'est vrai que c'est souvent des femmes, qui m'ont dit, on veut organiser, est-ce que vous pouvez nous organiser un Slow Body sur ce week-end-là? Et du coup, je l'ai organisé, donc j'avais mon atelier culinaire, j'avais le prof de yoga, j'avais des massages, on a fait des balades, on est allé visiter des artisans aux alentours, et ça fonctionnait, mais c'est des gens qui sont venus vers moi. Voilà. Mais ça, c'est mon challenge 2021.
Mais ça, c'est super. Justement, ça faisait partie de mes questions sur les objectifs de développement à 2021. Alors, surtout avec le contexte actuel, est-ce que tu penses qu'on a tous intérêt à revoir un petit peu notre façon de gérer les gîtes et les maisons d'hôtes, de revoir un petit peu les prestations, ou tu es plutôt positive sur l'avenir?
Moi, je suis plutôt positive.
Tu es ouverte à l'année ou tu as une période de fermeture normalement?
Normalement, je suis fermée janvier-février parce qu'il n'y a personne. Les villages autour de chez moi, tout est fermé. Donc, de même que quand on a ouvert, quand on avait réouvert après le confinement, on a eu pas grand monde puisque il n'y avait pas les restos, il n'y avait pas les bars, il n'y avait rien, tout était fermé. Donc les gens, ils viennent pas juste pour aller dans la maison d'hôte, quoi. C'est même si vous leur faites à manger, même si tout ça, les gens, ils viennent découvrir une région, ils viennent ou alors c'est vraiment le plein été, ils viennent juste se reposer. C'est vrai que j'ai des gens, mais c'est plus en plein été. Et l'idée, c'était justement mes séjours, je voudrais les faire justement sur ces mois creux pour découvrir la région qui est juste magnifique. En profitant de tarifs qui sont plus bas puisqu'on n'est pas en pleine saison, puis en se disant si jamais je bloque ma maison en disant toutes mes chambres vont être prises et qu'il y en a que 3 qui sont prises, c'est pas grave, le séjour il aura quand même lieu, ce que je peux pas me permettre au mois d'août. Je peux pas me dire tiens, cette semaine je vais faire un séjour avec du yoga, un atelier culinaire machin et tout, bloquer la maison et puis finalement avoir que le tiers de mes chambres qui sont prises alors qu'au mois de mars ça m'est égal. Voilà.
Oui, bien sûr. Et du coup, quel est le profil de ta clientèle?
Alors moi, c'est essentiellement, alors ça, avec mes lundis piscines, ça s'est rajeuni. Parce que du coup, il y a des gens qui ont 25 ans qui viennent pour une journée à la piscine, ça leur coûte pas très cher. Et donc, ils découvrent le lieu et éventuellement, des fois, ça leur donne envie de revenir. Mais ma clientèle, c'est plutôt des gens entre 35 et 60 ans et qui ont quand même un certain pouvoir d'achat puisque mes chambres ne sont quand même pas données. Donc il y a deux clientèles, hein, le gîte. Alors c'est marrant, le gîte, on l'avait vraiment conçu pour une famille avec papa, maman et 2 enfants. Et de plus en plus, j'ai 2 couples qui viennent, des amis en fait. Mais pareil, toujours dans la même tranche d'âge.
Et est-ce qu'il y a une clientèle étrangère? En tout cas, avant le Covid, est-ce qu'il y avait une clientèle étrangère?
Oui, alors pas vraiment au-delà de l'Europe. J'ai quasiment pas d'Américains. Alors après, je pense que j'ai pas d'Américains non plus parce que je pense que je me référence mal. J'appelle ça maison d'hôte. Et je pense que pour les Américains, c'est une personne qui travaille dans une société de voitures, de belles voitures de location, qui m'avait dit, mais les Américains, quand tu mets chambre d'hôte, en gros, c'est tu dors chez l'habitant, c'est pas de confort, c'est hyper rural, quoi. Et donc, c'est pas le bon mot-clé que tu mets et tout. Et ça, je le travaille pas. Ouais, c'est toute cette partie-là qu'il faudrait que je bosse vraiment. Mais sinon, oui, je travaille beaucoup avec des Allemands, des Suisses, des Belges. Un peu d'italien, un peu d'espagnol. Mais voilà, je travaille bien avec... Et d'ailleurs, cette année, j'ai fait un mois de septembre pourri. Parce que le mois de septembre, j'ai beaucoup d'étrangers. Et là, vu que la région PACA, elle était blacklistée, j'ai que des annulations.
Est-ce que tu essayes de fidéliser ta clientèle ou ça n'a pas tellement de pertinence avec ton offre?
Alors, j'ai pas une offre... clairement dites sur mon site, je dis pas si vous venez de partir de la deuxième fois vous avez tant de remises ou quoi que ce soit. Après, c'est très clair que j'ai des gens qui sont vraiment devenus des amis et eux je leur fais des tarifs, oui, mais c'est pas dit au grand public. Voilà, Après, chaque personne, il y a des gens, vous voyez, tu vois, c'est, alors c'est rigolo, c'est, à chaque fois, ça a été des couples de jeunes qui me disaient, mais Ève, ton lieu, il est magique. D'habitude, on ne va jamais deux fois d'affilée dans un même lieu parce que, ben, on a envie de découvrir le monde et une fois, ça nous suffit. Et c'est des gens, bah, il y en a un, ils sont venus trois fois, les autres, ils font leur anniversaire de mariage à chaque fois chez moi. Voilà. Donc, eux, oui, à chaque fois, je les vois, je leur fais des remises ou je leur fais des cadeaux quand ils viennent. Enfin, voilà, c'est... Mais sinon, non, je fais pas de bons de fidélité ou des trucs comme ça, non.
Il t'est déjà arrivé d'avoir des demandes pour des shootings photos ou de la presse?
J'ai, non, enfin, ça étonne beaucoup de gens, mais j'ai aucun article de presse. J'en ai eu une fois. Alors là, c'est même pas moi qui démarchais. J'ai été sélectionnée par le Figaro Magazine. Donc j'étais dans leur catalogue des plus belles chambres d'hôtes 2017. Mais je n'ai aucun article, non.
Est-ce que tu crois qu'il y a un gros travail en termes de communication à faire pour vraiment faire évoluer son activité où les choses sont un peu peut-être tendance en ce moment?
Ben, moi, enfin, ma maison d'hôte, je pense qu'elle est assez tendance. Après, je sais pas pourquoi. Enfin, cet été, j'étais envahie par les blogueuses de ma région pour venir, pour me faire des articles. Mais des magazines comme Côté Sud, Elle, des choses comme ça, non, j'ai jamais été contactée. Après, ce que je remarque, c'est que dans les belles maisons d'hôtes que je suis un petit peu, qui sont dans ma région, et que je connais, hein, pour y être allée, parce que j'avais envie de voir un peu, enfin, je faisais de l'espionnage industriel. Non, ça donne des... Enfin, après, c'est hyper intéressant aussi d'aller chez... C'est pas obligatoirement de la concurrence. Enfin, je pense qu'on prend des super bonnes idées, puis il y a des vrais échanges. Après, c'est tous des gens qui avaient des situations avec des sacrés carnets d'adresses. Voilà, j'ai rien dit de plus. Donc, je sais pas si pour avoir un article dans Côté Sud, parce que moi, j'ai demandé à des personnes, parce qu'à l'époque, dans ma société, j'avais une personne qui s'occupait de mes relations presse. Donc, j'ai cherché des personnes pour des relations presse dans le domaine du tourisme. C'est des budgets qui sont énormes, hein. C'est entre 500 et 600, 700 euros par mois. L'année où j'ai eu mon article et l'année suivante, c'est vrai que j'ai beaucoup d'appels en me disant, de personnes qui me disaient, bah oui, on a vu votre maison dans le Figaro, machin et tout. Voilà. Mais j'ai payé personne là. Hein. La personne, elle est venue toute seule chez moi. Voilà. Après, je pense que bah, communiquer, je trouve que c'est le truc le plus compliqué du boulot.
Et d'ailleurs, ton compte Instagram qui avoisine les 10 000 abonnés, qui est superbe.
C'est pas moi qui le fais. Voilà. Mais ça me coûte cher.
Oui, mais justement, est-ce que tu arrives à vraiment avoir un retour sur investissement pour vraiment ce médium-là?
J'y croyais pas, hein, parce que moi sur Facebook, ça m'a strictement jamais rien rapporté. Là, franchement, je suis quand même bluffée. Bon, déjà, le nombre de personnes qui me disent waouh, ton Instagram, il est magnifique, ça donne tellement envie de venir. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont vu mon Instagram. Et effectivement, le travail avec les blogueuses aussi.
Oui, il faut être sûr que sa cible corresponde à notre cible également, parce que sinon, il y a...
Des personnes qui sont pas reconnues pour ça. Moi, cet été, j'ai eu plein de gamines. Pour moi, c'est des gamines. Donc, c'est déjà qui ont une cible qui n'est pas ma cible client. Donc, elles vont toucher des gamines de 20 ans. Moi, la gamine de 20 ans, elle vient pas chez moi, sauf éventuellement le lundi piscine. Et elles parlent que de mode. Et d'ailleurs, quand elles sont venues chez moi, elles auraient pu être n'importe où. On le savait pas. Elles ont fait des photos que d'elles.
C'est bien, elles se sont mises en valeur.
Donc je veux bien. Elles ont juste tagué qu'elles étaient au domaine de la Parpaille et puis elles faisaient la pub pour le maillot de bain machin, le truc le mie. Tu te dis non mais attends, toi tu leur as offert la nuit, le repas, le truc le mie et elles se mettent que elles en avant. Donc ça voilà, il faut quand on travaille avec un influenceur, il faut vraiment être sûr qu'il va rapporter quelque chose. C'est que la cible n'est pas, elles sont pas, elles se retrouvent pas, donc sont pas pertinentes, voilà.
D'accord. Pour compléter un petit peu, est-ce que tu crois que être affilié à des labels peut peut permettre une meilleure reconnaissance auprès justement de ta cible. Et est-ce que tu, toi-même, tu es certifié ou est-ce que tu as adhéré à des labels?
Alors, pour mes chambres d'hôtes, non. Et pour mon gîte, oui, j'ai adhéré. Alors, c'est pas Gîte de France ou ça, c'est la classification du ministère du Tourisme qui met des étoiles. Grâce au fait que j'ai eu 5 étoiles, je paye plus de taxes de mes clients payent taxes de séjour plus élevées.
Oui, c'est vrai.
C'est pas bien compris, mais voilà. Complètement dingue. Voilà. Et du coup, c'est eux qui sont pénalisés. Enfin, voilà, j'ai pas bien compris ce truc-là, mais bon. Et après, très honnêtement, ça me sert strictement à rien. Moi, là, c'est vrai que je me fais un peu contacter par des gens qui essayent de mettre en place des réseaux justement de chambres d'hôtes, tout ça, par région, et qu'on se renvoie un peu nos clients. Je sais pas si c'est quelque chose qui est bien, pas bien, je sais pas. Ben, c'est l'année dernière, j'avais eu des gens qui m'avaient contacté, où en fait, ils font un peu un catalogue, on va dire, et puis chacun a les mêmes valeurs, donc on signe une charte ou un truc comme ça, et après, ça met les gens un peu en réseau, entre guillemets, je sais pas.
Ah oui, tu veux dire une plateforme de réservation où effectivement les établissements auront peut-être des valeurs en commun et d'accord, je vois très bien.
Voilà, donc c'est aussi le truc de, oh, ça s'appelle, il y en a qui s'appellent les collectionneurs, des choses comme ça. L'idée, ben voilà, oui, c'est effectivement de faire avoir une plateforme d'achat.
Justement, pour tes réservations, par quel biais tu es contacté, par quel biais tu références le domaine?
J'ai mon site et j'ai un système de réservation en ligne. Et je suis sur Booking. Alors, ça étonne beaucoup de monde, mais par Booking, j'ai presque personne. Mon gîte n'est pas sur Booking. Mon gîte, il est sur Abritel. Ça fonctionne bien. Alors, ils sont de plus en plus voyous. Donc, mon gîte, il est sur eux. Après, quand je dis que je suis de moins en moins fan, parce qu'au début, c'était vraiment juste une vitrine. Et là, de plus en plus, comme tous, hein, ils se font payer eux et ils vous payent à la fin. Ils prennent des coms. Avant, ils n'en prenaient pas. Avant, je payais mon abonnement à l'année. Et c'était tout. Toute la négociation se faisait avec le client. Là, je paye toujours mon abonnement à l'année. Ils prennent une commission sur ma réservation. Et en plus, les 95%, ils payent à Britain. Et moi, je suis payée, je peux pas avoir d'acompte. Donc ça, c'est des trucs qui me plaisent pas. Booking, ça commence à être ça aussi avec leur truc de carte virtuelle, là, où ils prennent 100% des réservations et on est payé quand le client arrive. Non, moi, j'ai des connaissances qui me disent que Booking, ça leur fait 40% de leur chiffre d'affaires. Moi, j'ai vraiment très, très peu de réservations par Booking. Alors, je vais être honnête aussi, Booking, j'augmente de presque 15% mes prix pour compenser la commission. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça, parce que du coup, on trouve que je suis hors de prix pour, voilà, je sais pas.
Mais je pense qu'en plus, ça peut être compliqué si justement on n'est pas bien assisté sur ce point-là, parce que n'ayant pas les acomptes, au niveau de la trésorerie, ça peut être vite limite de pas avoir un petit peu de fonds tout au long de l'année, quoi.
Tout à fait. C'est juste ingérable. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, janvier, février, mars, enfin, même décembre, hein, novembre, décembre, janvier, février, c'est un peu les vaches maigres. Hein. Donc, si on prend pas d'acompte sur les mois à venir, ben on est mal, quoi. Et puis après, moi, je trouve que les clients Booking, ils cherchent vraiment, enfin, de plus en plus, moi, je trouve qu'ils cherchent vraiment une chambre pour une chambre. Sur Booking, par exemple, le nom de mes chambres, elle est pas reprise, quoi. C'est des petits détails, mais qui rendent la chambre complètement impersonnelle, quoi. Par exemple, aussi, sur Booking, alors là, ça rejoint ce que tu dis. Sur Booking, c'est plus fait pour les vrais hôtels, parce que par exemple, moi, je fais une table d'hôte. Ben, ils appellent ça restaurant. Ben, non, je suis pas un restaurant. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver à 20h en disant, est-ce que je peux manger? On voudrait manger. Moi, j'ai des clients, ils comprenaient pas. Je dis, mais je suis une table d'hôte. Je le fais un soir par semaine et il y a un menu unique. C'est pas tout le monde choisit comme il veut.
Oui, ça dénature un petit peu tout l'aspect de proximité qu'on essaye de donner justement à travers une maison d'hôte, et c'est vrai que c'est dommage.
Moi, je le fais parce que il faut pas se leurrer aussi que ils jouent un petit peu dans notre référencement naturel, c'est gros, parce qu'ils y mettent un budget monstrueux. Et c'est pour ça que même quand on tape le nom de la maison d'hôte, ben, c'est leur site qui apparaît en premier. Je pousse pas, quoi. Ouais. Et après, donc, le système de réservation en ligne, c'est que, ben, c'est des frais encore. Ouais, ça, c'est clair. Là, je viens de changer de système de réservation en ligne parce que j'étais avec une boîte américaine, j'avais jamais personne au bout du fil. Donc, dès qu'il y avait un bug, ben, ça buguait. Voilà. Donc là, j'ai changé. L'avantage qu'il y a, c'est que ça synchronise tous les canaux de réservation. Donc, on va dire Booking et mon site. Ça l'automatise automatiquement. Donc, on évite les doubles réservations. Après, c'est des frais en plus.
Et au niveau du budget mensuel, est-ce que tu t'y retrouves ou
Ça coûte, là où je suis avec 5 chambres, ça me coûte 40 euros hors taxe.
C'est calculé selon le nombre de disponibles de chambres
qu'on... Non, complètement. Je pense qu'ils ont un module jusqu'à 5 chambres. Et je voulais mettre mon loft que je loue aussi juste à la nuitée. Et pour ajouter une 6e chambre, passer à 75 euros. Je suis pas très bien compris.
Oui, là, ça fait un gap un peu important.
Je le fais aussi parce que j'ai de la clientèle étrangère. Mais c'est vrai que sur le moment, quand il te tombe une réservation comme ça, que tu n'as eu aucun échange de mail, rien, c'est complètement impersonnel, quoi. C'est complètement impersonnel. Tu sais, donc d'ailleurs, moi, je m'amuse parce que je fais un travail double parce que toutes les réservations que j'ai, donc c'est... J'ai un planning hein, avec tout le nom de mes chambres, les départs, les arrivées, donc c'est hyper clair. Mais moi, je me refais un tableur Excel. Comme ça, j'écris le nom des gens, ça me parle plus quoi. Je me fais mon planning à moi, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà. Après, normalement, c'est des outils aussi. Si tu prends le temps de bien les paramétrer, je pense que ça aide vraiment parce que ça sort les factures, ça peut vraiment aider à faire des choses quoi. Tu as ta base de données, tu as tout ça quoi quand même quoi, tu vois. La même chambre, elle peut être utilisée sept fois par des personnes différentes dans une semaine, quoi. Ce que je fais à la nuitée. Ce qui est différent avec le gîte, il n'est pas sur ce système de réservation en ligne. Parce que le gîte, je peux pas me tromper sur une semaine, quoi. Une nuit, oui, tu peux te tromper. Tu peux dire, oui, j'ai de la place en ayant cinq chambres. Sur une nuit, tu peux... Parce que là aussi, ben, c'est pareil, je suis toute seule, donc les gens, ils m'appellent, oui, je note ça sur un mauvais bout de papier, je perds le bout de papier, je n'ai pas fait la réservation. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui voit que la chambre, elle est libre, qui réserve.
Voilà. Oui, juste le laps de temps entre la mise à jour sur les canaux de réservation et l'appel que tu peux avoir, effectivement, ça peut provoquer des doublons problématiques.
Très clairement, hein, quand je me suis retrouvée toute seule, ma première année, ça a été un enfer. Parce que les surbookings, j'en ai fait. Hein.
Et tu arrivais toujours à trouver une solution?
Oui, j'ai toujours trouvé une solution. Donc, soit je mettais ma chambre à disposition. Donc, selon les personnes, c'était en offrant la nuit. Hein. Du coup, j'offrais la nuit. Hein. Je ne faisais pas payer les gens. Donc, il y a des gens qui le prenaient très bien, en disant, effectivement, l'erreur est humaine. Donc, ben, c'est pas grave, c'est déjà super que vous puissiez nous loger. Il y en a qui le prenaient très mal. Mais bon, après, ils étaient quand même obligés de rester parce que, ben, quand c'est en plein mois de juillet, ben, ils trouvent nulle part. Et une fois, ça m'est arrivé. Alors là, je sais vraiment pas comment j'ai pu me planter. Ben, c'était un couple. Ils avaient réservé deux massages et ma table. Et je les ai complètement zappés. Et quand ils sont arrivés, que je savais que j'étais complet, que je les ai vus arriver, j'ai dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ils m'ont juste incendié. Je leur ai trouvé une super chambre, le double du prix de la mienne. C'est un truc aussi qui est un resto. Le resto, c'est un étoilé. J'ai payé le repas et ils étaient quand même pas contents. Mais bon, il y a toujours des gens qui
sont... Ah oui, là, il manquait clairement de clairvoyance quand même.
Non, mais il y a des gens, ça veut dire que tu les as pas, ça manque de respect pour eux. Enfin, oui, c'est oui. Et comme j'aurais dit, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait une erreur. Oui, je ne suis pas un robot, je me suis plantée. Je les ai accompagnés à la maison d'hôte, enfin, j'ai tout fait, quoi.
Mais c'est ça, je pense qu'en plus, au-delà de ton erreur, tu as déployé tous les moyens possibles pour leur proposer un séjour quand même inoubliable, et ça, ils le reconnaissent même pas, quoi.
Effectivement, j'ai pas trouvé tout de suite la chambre, ils ont attendu une heure, mais je les avais mis à la piscine, je leur ai offert une bouteille de vin, enfin, rien faire d'autre. Après, je leur ai dit, si vous voulez, je vous réserve le massage pour demain. Je vous mets vous pouvez venir à ma piscine, parce que c'est une chambre d'hôte qui n'avait pas de piscine. Vous pouvez passer la journée demain. Bon, après, à partir d'un moment, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu proposes plus, tu as fait, voilà. Ben, s'il ne comprend pas qu'on peut faire une erreur, ben.
Est-ce que tu, avec l'expérience, tu as l'impression que tu arrives à prendre un peu plus de distance, justement, à ces mauvais retours ou des commentaires qui peuvent être un peu blessants? Ou c'est toujours très très vif pour toi?
Moi, c'est toujours très vif, parce que comme je le dis à mes clients, aussi étonnant que cela puisse le paraître, quand je gérais la boîte de mon père avec 120 personnes, quand j'ai fait de levée de fonds, j'ai eu mes vies industrielles, elles ont été hyper, j'ai fait un dépôt de bilan, enfin bon, c'était un peu, voilà, c'était stress, et ben ça me stresse moins que mon boulot aujourd'hui. Mon boulot aujourd'hui, c'est tellement moi. Mon gâteau, il monte pas, ou je fais cramer mon gâteau, je suis malade, quoi. Avant de servir une table d'hôte, je suis en stress, mais, alors, ça par contre, donc quand un client, il est pas content, et qui me, verbalement me crache dessus, hein, je veux dire, me salit, parce que pour moi, il me salit, parce que je fais toujours mon possible pour que tout soit parfait. Ça me fait tout le temps, ça me fait toujours aussi mal. Par contre, ce que le temps m'a appris, c'est qu'il vaut mieux en faire moins, mais bien le faire. Je m'entends. Mes heures d'arrivée, c'est entre 16h et 19h. J'ai tout le temps, on est intelligent. Est-ce qu'on peut arriver à midi? Je ne sais pas leur dire non. Je leur dis oui. Et quand ils arrivent à midi, ils me font, ça me gonfle. Parce que je suis en train de faire d'autres choses et je suis là, je suis, oh putain, donc je les reçois mal. Ou alors, des fois, je suis partie parce que je les ai oubliés et il n'y a personne pour les accueillir. Alors que si tu en restes à ton truc de 16 heures, c'est ce que tu as dit, il faut être là à 16 heures et c'est clair. Quand à une époque, je faisais à manger tous les soirs, mais il y avait des soirs où j'avais pas envie de faire à manger et je disais, non, ce soir, non, il n'y a pas table d'hôte. Les gens, ils comprennent pas. T'as écrit sur ton cahier en chambre que tu fais à manger tous les jours et qu'il suffit qu'on te prévienne avant midi. Et la personne, elle vient te voir à 11h, elle te dit, est-ce que c'est possible de manger pour ce soir pour deux personnes? Et tu leur dis, non, ce soir, je fais pas à manger. Personne, elle comprend pas. Et là, tu t'en fais prendre plein la tête. Mais parce qu'en fait, t'as pas, donc il vaut mieux en faire moins. Oui, je fais la table d'hôte qu'une fois par semaine. Je suis désolée, je fais pas plus. Les arrivées, c'est à 16h, c'est pas à 14h. Tu vois, c'est vraiment ce que tu écris. Il faut être hyper rigoureux, quoi. Et ça simplifie ton... Comme ça, tu es droite avec toi, quoi, je veux dire.
Le mieux est l'ennemi du bien. Effectivement, à vouloir trop bien faire, à vouloir être perfectionniste ou à vouloir trop satisfaire les différentes demandes de clientèle, on s'oublie parce qu'il y a un moment, c'est humainement plus possible. Et le temps, le temps n'est pas à rallonge.
Tu vois, il y a des gens, on voudrait aller au resto, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je dis, tel resto. Si vous voulez, je vous réserve. Ah oui, c'est super, bon alors pour 20h. Ils te disent ça à 10h, les restos, ils sont pas encore ouverts, et toi, tu pars dans autre chose et tu oublies complètement la réservation. Et là, ils sont pas contents du tout. Alors que si tu leur dis, tenez, je vous donne le numéro de téléphone, sauf si tu sais que, après tu peux le faire, mais il y a des moments où tu sais très bien que tu peux pas le faire parce que t'as 50 000 choses à faire. Parce qu'on a aussi nos vies, moi j'ai une fille, j'ai ma maman, j'ai plein de choses aussi, quoi. J'ai tout simplement moi et j'ai envie de me reposer. Quand tu as dit que tu faisais quelque chose, il faut vraiment le faire et point. Et pas en faire plus, quoi. Voilà, c'est ça que ça m'a appris et donc, du coup, ça me bouleverse toujours autant quand les gens, ils... Mais par contre, je le sais quand les gens ils vont écrire quelque chose de pas bien. Parce que justement, il y a un petit truc qui a merdé. Et il y a certaines personnes, quand les petits trucs, elles merdent, ils n'aiment pas.
Tant qu'on parle des choses qui fâchent un peu, quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée dans toute ton expérience d'hôtelière?
Alors, j'en ai eu deux. Donc, c'était vraiment à mes tout débuts, quand y a des gens qui sont venus dans mon gîte. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une semaine vraiment pourrie. Et tout de suite, c'est pas passé avec les gens. Et c'était l'époque où ce métier, je ne le connaissais pas du tout. Donc, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas trop dans ma... Enfin, c'était pas parfait dans ma maison. Il y avait des bouts de ferraille un peu partout. Il y avait des lampes qui marchaient pas. Il y avait... Voilà, c'était un peu rock'n'roll. Et les gens, ils ont créé mon compte TripAdvisor. J'avais pas de compte TripAdvisor. Et ils m'ont mis un truc... pire truc qu'on peut te dire, c'est-à-dire maison avec beaucoup de potentiel, mais gérée par une personne qui s'y connaît pas du tout. Mais bon, et tu as le seul avis, c'est sur TripAdvisor. Là, pof, tu t'en prends plein la tête. Donc ça, c'était un truc qui était très dur à gérer. Et après, les choses, c'était pas cette année, c'était il y a 2 ans. J'ai eu une panne de courant de 36 heures en plein mois de juillet. Et j'ai un forage. Ça veut dire que je n'avais pas d'eau. En plein mois de juillet, j'étais complet de partout. Mon gîte, mes chambres, mes 2 piscines ont viré. J'étais incapable de dire aux gens quand est-ce que ça allait être réparé, parce que je téléphonais à EDF et je tombais sur un répondeur qui me disait « ça va être réparé à 18h, ça va être réparé à 21h ». 36 heures, ça a tenu comme ça, 36 heures. Et c'était juste un enfer, parce que j'avais pas de solution.
Et la clientèle a été compréhensive ou
mitigée. Il y en a qui sont partis, il y en a qu'il a fallu que je rembourse. Il y en a, quand je leur ai donné la facture, ils m'ont dit « vous nous faites que 10% de remise, mais nous, on veut que vous nous fassiez 80% de remise parce que voilà ». Et puis, il y en a deux qui ont été super sympas et qui ont dit « c'est pas de ta faute, quoi ». Non, mais par contre, ça, la leçon que j'ai retenue, c'est que, un, je suis en train de chercher la solution. Bon, pas d'électricité. Tu te dis, il faut que je me crée mon petit kit panne d'électricité. Avec, non, mais c'est tout con, mais ça m'arrive régulièrement de plus avoir d'électricité chez moi. Enfin, quand je dis régulièrement, ça m'arrivait 3 fois dans l'année. Mais bon, c'est 3 fois de trop. Donc, c'est faire un truc avec des bougies ou une lampe torche où il n'y a pas besoin d'électricité, de l'eau suffisamment pour boire et une cuvette pour aller dans les piscines pour nettoyer les toilettes. C'est 3 trucs qu'il te faut. Voilà. Et après, avoir un groupe électrogène, donc c'est encore des investissements, pour mon forage. Parce que j'ai pas d'eau, moi. Donc, si j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau. Et là, pas d'eau, c'est quand même sacrément compliqué, quand même.
Mais après, quand on se confronte à une difficulté, y a un apprentissage derrière et puis on met en place des solutions et... effectivement, si le problème doit se répéter, on sait l'affronter et le surmonter même.
Tout à fait. C'est quoi, par exemple, mes tables d'hôtes? Mes tables d'hôtes, avant, c'était, je me mettais, là, je vais avoir le temps. Là, je suis, c'est millimétré. Je vais faire mes courses le jeudi, je commence à travailler le vendredi, je me fais mes to-do list, alors ça, je vais faire ça, je fais ça. Et ben, j'arrive, je suis pas du tout dans le stress, quoi. Or, c'est pas du tout rentable, hein, parce que tu travailles 3 jours pour faire... 10 tables d'hôtes, donc c'est 10 repas. Mais comme je suis toute seule, je suis tranquille, je prépare ma vaisselle, je fais ceci, je fais des jolies tables, je mets les petites bougies, je vais à mon rythme et je me laisse un temps pour après aller me préparer, pas être en vrac quand je vais servir les gens. Voilà. Alors que quand j'ai commencé à table d'hôtes, je me mettais le samedi à 11h après avoir servi mes petits déjeuners et j'arrivais en vrac le samedi à 20h. Voilà.
D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu un aperçu d'une journée type?
Waouh! Oui. Une journée type. Alors, cette année, j'ai un peu changé. J'ai fait la patronne de luxe. J'ai pris une vraie équipe pour m'aider dans le ménage. C'est-à-dire que j'avais 3 personnes qui travaillaient pas. C'était pas des temps pleins. Hein. Mais ça me permettait de pas me lever aux aurores. Donc, en fait, c'est elle qui me dressait les tables du petit déjeuner. Parce que ça, pour moi, autant tout ce qui est... Alors, je parle beaucoup des chambres d'hôtes et moins du gîte, parce qu'en fait, le gîte, je reçois les gens le samedi, et après, ils font leur vie. Donc je vais les voir parce que je leur apporte, je propose, vu que tous les jours on va à la boulangerie pour le pain, les croissants, tout ça, ben je leur propose de leur livrer le pain. Donc je les vois éventuellement le matin, s'ils sont réveillés. Le dernier soir, ben ils viennent prendre un verre au bar de la piscine du bar. Mais sinon je les vois pas beaucoup. Donc eux, c'est, je veux dire, le gîte pour moi, si j'avais que des gîtes, ça serait assez simple parce qu'en fait, tu n'as pas le petit déjeuner, le ménage des chambres tous les jours, des gens qui restent moins longtemps, donc il faut encaisser, dire au revoir, puis qui n'ont pas obligatoirement prévu des circuits, des choses comme ça parce qu'ils sont là pour 2 jours, donc ben, ils attendent beaucoup de toi. Donc ma journée type, quand j'ai le courage, je me lève quand même assez tôt, vers 6h, 6h30 pour aller courir ou faire des bassins pour mon bien-être. Après, eh ben, j'arrive vers 8h15 pour les petits déjeuners, puisque mes petits déjeuners sont servis de 8h30 à 10h. Voilà. Donc je suis là à 8h15, comme ça on check bien tout avec la fille qui a dressé les tables, je vérifie que tout est bien mis comme je veux, naninana. Après j'ai mes petits déjeuners qui sont lancés, donc ça me prend bien jusqu'à 11h, 11h30, parce que ben, c'est le moment où je pars avec les gens en fait, beaucoup. Donc je parle beaucoup avec eux, j'ai une petite boutique, donc ben, les gens qui partent, des fois ils m'achètent des choses, donc je fais des paquets, enfin voilà. Donc ça m'occupe jusqu'à 11h30 midi, hein, le temps de faire un peu un point avec aussi les filles qui font le ménage. Donc le ménage, je m'en occupe pas. Cette année, je m'en suis pas du tout occupée. Et après, ben je fais pas tout. Il y a un jour où je fais mon administratif, un jour où je vais faire mes courses, un jour où je prépare, je cherche mes recettes, parce que ça paraît, je pourrais me simplifier la vie et toujours faire les mêmes recettes. Mais comme c'est une passion pour moi de faire la cuisine, ben, je me complique un peu la vie en cherchant toujours des nouvelles recettes. Voilà. Et après l'après-midi, je cuisine. Alors, parce que je fais généralement, je fais jamais la même. Pour tous les petits déjeuners, je fais quelque chose de différent. Ben, je fais par exemple, je fais des préparations pour mettre sur des salades. Enfin, je fais comme des conserves, on va dire. Et c'est vrai que si j'ai rien, c'est-à-dire que si je propose pas un apéro, si je propose pas juste une planche le soir, ben j'ai fini ma journée vers 17-18h. Mais souvent dans la semaine, je dois proposer 4 soirs par semaine quelque chose. Et après, il y a l'accueil des gens, voilà. Par contre, ce dont je n'ai pas parlé et qui cette année a été un enfer pour moi, c'est toute la partie technique. Et là, c'est l'enfer. Cette année, j'ai fait mettre une clim. Elle n'a pas marché 15 jours que j'avais plus de clim. Donc, on appelle les gens qui vous disent « Non, mais nous, on l'a installé, mais on ne fait pas le SAV dessus. On ne sait pas s'en servir. » Et là, ta piscine qui vire, il faut la vider parce que le mec, il veut pas, parce qu'il est parti avec ta pompe et qu'il ne revient pas. Et tu l'as plus. Donc, ben, faut que tu te débrouilles. Parce que tu n'as plus d'Internet et que tu n'arrives pas à voir les gens. Ben voilà, ça me prend un temps, mais c'est parce que je suis seule aussi, hein. Et ça me bouffe et ça me stresse vraiment. Voilà, ça me stresse énormément. Et après, parce que même si c'est quelqu'un qui fait ma communication, je travaille beaucoup avec elle sur la communication, sur les posts que je veux faire, sur ce que je veux qu'on parle, une newsletter, voilà, tout ça je le fais.
Selon toi, quelles sont les principales qualités à avoir pour se lancer dans cette folle aventure?
Il faut aimer travailler. Ces journées, parce que c'est vrai, quand je donne une journée type, bah, ma foi, on dirait que j'ai pas énormément de travail, mais je sais pas comment je fais. Je suis tout le temps en train de, parce qu'en plus, je fais des confitures, je suis tout le temps occupée, en fait. Je sais pas comment je fais, mais je suis tout le temps occupée. Donc, la qualité, c'est pas avoir peur du travail. L'autre qualité, mais qui peut aussi devenir un gros handicap, c'est être hyper disponible, néanmoins en sachant mettre les limites. Parce que c'est un métier où les gens ont facilement pas de limites, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose et ils n'ont pas fait la connexion souvent que tu es dans une maison d'hôte. Donc c'est-à-dire qu'à minuit, tu n'es pas obligé de répondre au téléphone, quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui le... Donc, c'est aimer le travail, aimer le contact, être très disponible et hyper compréhensible, parce qu'au final, c'est quand même le client qui a raison. Mais savoir mettre ses limites. Et savoir mettre ses limites, c'est être très clair sur je fais ma table d'hôte tel jour, les arrivées, c'est à telle heure. Je me fais aider par une personne, un peu un coach, là, le coach et la psy. Elle me dit, Ève, les limites, ça ne veut pas dire que vous êtes psychorigide. Ça veut dire que vous mettez un cadre. Après, si le cadre, vous voulez le ramollir, si avec certaines personnes, ok, bah oui, vous pouvez arriver à midi, ça, avec grand plaisir, vous le faites. Mais le fait d'avoir écrit, vous arrivez à 16 heures, si tu n'as pas envie de dire que tu peux arriver à midi, eh ben, tu peux le dire, c'est écrit. Donc, aimer le travail, aimer le contact, être disponible en mettant des limites. Et puis, je crois aussi, alors là, je ne sais pas si c'est une qualité, mais il faut aimer faire plaisir à l'autre. Il faut aimer offrir. Parce que ça, quand même, c'est... Moi, je sais quand même que j'ai de plus en plus de clients qui reviennent chez moi et qui me disent, ben, demain, la parpaille, c'est à pas Ève, c'est on ne reviendra pas, quoi. Parce que c'est toi qu'on vient voir. Parce que je donne énormément. Je me crève la paillasse pour eux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Dans le moindre. Le sens du détail, c'est tout bête, mais c'est ça qui fait l'harmonie d'un lieu. Tout est harmonieux et les gens, ils se sentent bien, quoi. Les couleurs qui vont bien ensemble. J'énerve les filles qui mettent la table du petit déjeuner. J'ai plusieurs petites cuillères et je leur dis non, cette petite cuillère, c'est pour mettre à côté du couteau, les autres, c'est pour la confiture. Elle me dit, non, mais ils ne le voient pas, les gens. Je dis, oui, ils ne le voient pas, mais ça fait un ensemble qui est harmonieux, quoi. Puis moi, je le vois, donc vous le mettez.
La perfection se trouve dans le détail.
Oui, et je crois que les gens, ils peuvent pas dire qu'est-ce... Mais ils sont, waouh, quoi. On est bien, quoi, tout simplement. Les gens, ils me disent, on se dirait chez nous, parce que c'est pas trop guindé, parce que je pense qu'une maison d'hôte, ça doit pas être... Maintenant, de plus en plus, il y a des super maisons d'hôtes qui sont pas tenues par des gens. Ils sont même pas là. Ils font appel à des services de conciergerie, des trucs comme ça. Moi, j'ai été démarchée par quelqu'un qui gérait qui était concierge dans un super bel hôtel et qui m'a dit « Waouh, votre maison, elle me plaît, elle a taille humaine et tout. Donc moi, je vous propose d'être votre concierge, d'accueillir les gens. » Je dis « Mais non, vous allez pas les accueillir. » Effectivement, ça me simplifierait quand il faut que je sois là à 16h alors que je suis encore à Carrefour, que j'ai pas fini mes courses et compagnie, ou que ma mère m'appelle, machin et tout. Des fois, c'est hyper compliqué. Mais à l'occasion, oui, je peux demander à quelqu'un de venir accueillir les gens, mais pas systématiquement. Sinon, on fait un truc qui a plus d'âme, on va dans un hôtel à ce moment-là. Je crois qu'il faut quand même énormément aimer donner. Moi, ma belle-sœur, elle me dit, mais Ève, je pourrais même pas faire ton travail, quoi. Parce que tu es tout le temps en train de donner, de répondre aux gens, de les chouchouter, de ceci, de cela. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas non obligatoirement quelque chose d'hyper rentable, parce que le temps qu'on travaille, au coût horaire, je sais pas si on n'est même pas au SMIC, quoi. C'est une passion.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est une vocation. Est-ce que pour autant, il y a eu un moment où tu t'es dit je vais arrêter, je vais reprendre le salariat?
Jamais.
Non, jamais.
Bon. Déjà, ça faisait quand même un bout de temps où j'étais ma propre patronne. Donc, être sous les. Alors, en même temps, quand j'ai des gros choix à faire, je me dis waouh, qu'est-ce que ça serait bien si j'étais salariée et j'avais quelqu'un dessus qui prend la décision pour moi. Parce que je sais pas. Mais non, parce qu'en plus, j'ai tellement envie de faire de choses. Alors après, ça, il faut que je me calme parce que je peux pas tout faire. Mais du coup, c'est hyper excitant tout le temps, quoi. C'est qu'on a envie de toujours faire des trucs nouveaux. Tiens, on se dit, waouh, ça, ça va leur plaire. Là, pendant le confinement, je teste plein de nouvelles recettes pour me dire, tiens, quand ils seront là, je vais faire ça. Voilà, donc c'est top. Après, le seul truc que je me dis, c'est que je me dis, j'ai 56 ans. Waouh. Dans 4 ans, est-ce que je vais encore avoir l'énergie de faire ça, quoi? Voilà. Parce que c'est fatigant. Plus ça, me dire, est-ce que je vais tenir? Alors après, je peux changer, je peux faire que des gîtes, parce que des gîtes, c'est différent. Après, voilà. C'est plus la question de me dire, est-ce que dans 4-5 ans, je serai encore en forme suffisamment pour faire ça? Avec le recul aussi, je pense que, quand je parlais de limites, je pense qu'aussi, justement, parce que j'ai pas 30 ans et que dans, allez, même 10 ans grand maximum, 5 ans, je sais pas si je pourrais encore le faire, c'est justement quand même ne pas vivre, et c'est un peu mon défaut, je vis vraiment à travers mon travail. J'ai pas de vie privée. Très peu.
Tu compartimentes pas vie privée et vie professionnelle,
non. C'est vraiment... Alors, je suis plus mariée. Très clairement, j'ai pas le temps de trouver quelqu'un. Et je sais pas si ce quelqu'un, il pourrait rester avec moi, parce que quand tu travailles tout le temps dans ton truc, quand tu penses qu'à ton truc, bof. Ouais. Je compartimente très peu. Alors, ma fille, elle m'aide à ça, parce qu'elle a 21 ans, et elle me dit, maman, fais-toi jolie, pense à toi, machin et tout. Mais c'est très dur pour moi. Et c'est vrai que quand je rentre sous la douche, les problèmes qui m'assaillent, c'est mes problèmes de mon boulot. C'est pas mes problèmes à moi. Alors, éventuellement, je me vois dans la glace, je dis, oulala, comment ça être moche, mais je prends pas de temps pour moi, très clairement, mais il faudrait, parce que justement je pense que ça aide à plus encaisser, à être moins fragilisé quand un client il n'est pas sympa, parce qu'on se dit, ben c'est ton boulot, c'est pas grave. Quand j'avais ma société, que l'appareil il tournait pas et que le client il hurlait et qu'il me payait pas, bon ben, c'était pas moi. Là, le client, il râle parce que je suis pas là, parce que j'ai dit que j'étais là à 16h et que finalement, je suis là à 16h30. Hein. Je lui ai envoyé un SMS, mais qu'il est énervé parce qu'il a attendu pendant une demi-heure au soleil. Bon, il faut relativiser. Ou pas accepter quand les gens, ils vous disent, ouais, on arrive à 23h, 2h avant. Non, t'arrives pas à 23h. Moi, j'ai ma vie aussi. 23h, j'ai des copains, je suis chez moi, je suis tout ce que tu veux. Mais tu es pas corvéable. Voilà. Et je pense que le fait de pas avoir de vie privée, non, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Voilà. Et je pense que même quand on est en couple, c'est important. Parce qu'on est en couple, il faut pas qu'il y ait pas de moment que pour tous les deux. Voilà.
Oui, que à chaque repas, le sujet soit toujours le gîte, la maison d'hôte, et qu'est-ce qu'on va faire là, et qu'est-ce qu'on va faire de ci, de ça. Effectivement, ça, on en revient à l'idée de cadre dont tu parlais tout à l'heure. C'est exactement pareil, mettre un cadre aussi sur des limites à ne pas franchir et ne pas s'imposer d'avoir tout le temps la tête plongée dans le travail.
Ouais. Et après, comme j'ai dit, certes, c'est une passion, mais il faut peut-être aussi se dire à partir d'un moment, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ben j'arrête, je fais pas d'autre chose. Oui, les gens, ils aimeraient que je fasse à manger tous les jours. Ben non, je fais pas à manger tous les jours. Ils aimeraient que la boutique, elle soit avec plein de produits. Ben non, ils aimeraient qu'il y ait plein de massages, ils aimeraient que tu les amènes à droite, à gauche. Tout ça, je le fais pas. Voilà, moi, je propose ça et j'arrête là. Et aussi, dans toutes les passions qu'on peut avoir, se dire non, mais ça va trop me bouffer de temps. C'est encore mon boulot, c'est pas moi. Parce que je me dis, j'arrête mon boulot, je vais faire quoi de ma vie? Je sais pas. Et ça, c'est pas bon. Il faut quand même avoir des trucs à côté.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut trouver le bon équilibre et savoir s'épanouir en dehors aussi de cette activité-là. Je suis curieuse, j'aimerais bien connaître ton plus beau souvenir de toute ta carrière.
J'en ai deux. C'est la fidélité de deux clients qui sont à mes côtés tout le temps. Ils m'appellent. Et ça s'est fait dès la première fois qu'on s'est vus, quoi. Ils ont dit, mais toi, ta maison, et c'est devenu des vrais amis qui m'appellent, qui me demandent comment je vais, qui m'aident à développer mon truc, qui me donnent des idées, ils m'invitent chez eux. Donc ça c'est un premier. Et la deuxième, c'est ma première cliente. Donc on a ouvert le gîte avec mon mari. Elle est revenue un mois après. Donc on avait vraiment sympathisé. Un mois après, elle est revenue avec sa maman. Et à l'époque, donc on n'avait que le gîte, on n'avait pas les chambres d'hôtes. Et je disais, ça fait râler, je peux jamais, j'ai pas de piscine. Quand je rentre de mon boulot, je faisais ma bourgeoise, là, j'ai pas de piscine, machin et tout. Mais en même temps, j'ai pas d'argent de payer ma piscine. C'était une époque où on s'écrivait beaucoup, beaucoup. Elle était pas en couple, donc on s'écrivait beaucoup. Un jour, elle me dit, elle m'envoie un message, et dans l'objet du message, dans l'objet du mail, il y avait écrit co-gite. Alors, je dis, c'est quoi ce machin et tout? Et elle me dit, oui, je co-gite sur ton projet, machin et tout, et j'aimerais bien participer à ta piscine. Et c'est Nana, c'est une Belge, enfin, qui m'a payé ma piscine. On a fait un contrat devant un notaire où j'ai fait une reconnaissance de dette. Elle, donc, la reconnaissance de dette, ben, elle venait gratuitement chez moi. Maintenant, elle a payé sa dette. Enfin, j'ai payé ma dette. Elle continue à venir sans payer. Et dans le gîte, elle a, c'est sa maison, en fait. Donc, elle a sa malle avec toutes ses affaires. Je lui fais le lit systématiquement. Elle enlève mes draps en lin et elle met ses draps à elle. Et c'est devenu une de mes meilleures amies. Voilà.
Des amitiés qui naissent grâce à l'activité.
Ah oui, c'est des gens, c'est impressionnant la fidélité qu'ils ont, comment ils sont heureux quand tu fais un truc qui marche. Donc pas du tout dans la jalousie, dans ceci, dans cela, qui t'appellent tout le temps pour savoir si tu vas bien, qui viennent tout le temps avec des petit truc, hein, c'est même pas pour le cadeau, c'est pas le truc là. Le deuxième, c'est des Lyonnais, ils m'ont invité chez eux. J'adore les quenelles. L'autre fois, ils sont venus, ils sont arrivés avec des quenelles, des gâteaux, enfin tout ce que j'aime, ils me l'ont amené quoi. Enfin c'est tout bête, mais c'est les détails qui savent et voilà, et c'est top quoi. C'est vraiment top.
Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Par quels moyens les auditeurs peuvent-ils te contacter?
Il y a mon téléphone, il y a mon mail et il y a mon Instagram.
Parfait, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Pour conclure, j'ai deux dernières questions. En ce moment, quel établissement te donne envie de faire ta valise et de partir pour un week-end?
Les sardines aux yeux bleus.
J'irai regarder ça.
Voilà. Je reste en France, hein, je vais pas très loin, mais même je crois que c'est...
Tant ouais, mieux.
Mais, ouais, ils sont super beaux, c'est super beau.
Et alors enfin, est-ce que tu as un titre de musique en tête qui pourrait illustrer le mieux ton parcours, ton état d'esprit
Alors j'ai une musique que j'écoute en ce moment en boucle, et alors elle est pas très gaie, mais je suis quelqu'un quand même d'assez mélancolique en même temps. Je suis assez sentimentale, donc j'aime bien les musiques qui font pleurer, les films qui font pleurer. J'aime pas du tout la comédie, voilà. Et donc, le nom de la musique, ça s'appelle Paradise. Et c'est de Anderson Rocio, Rocio, R-O-C-I-O.
Encore un immense merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu témoigner à mon micro.
Merci à toi et à ta disposition pour la suite, s'il y a besoin de quoi que ce soit.
Avec grand plaisir. Ben, je te dis à très vite et merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux @lesclésdugite pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite. It's not paradise. But if you look close enough, you'll see the sunrise in our eyes. Let the ocean set you free. Ooh, 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 ooh. We'll run through the fire. We'll team up with water and make our move. Won't get lost in silence. Not something our voices know how to do. 'Cause it's no paradise. But if you look close enough, you'll see the sunrise in our eyes. Let the ocean set you free. Ooh.
Let the ocean set you free.